Pour faire de la science, voyez-vous, il faut des principes, des sortes d'idéaux qui seraient valables partout et en qui, contrairement aux affaires humaines peut-être, on peut espérer avoir une confiance absolue. Un de ces principes nous est à toutes et à tous familier. Il est peut-être vrai, peut-être faux, c'est le principe de conservation de l'énergie. Ce principe dit en gros que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que de l'énergie ne peut pas apparaître ni disparaître. Alors imaginez-vous un instant à l'intérieur du noyau d'un atome. Autour de vous, il y a deux types de particules. Il y a les protons et les neutrons. Et il y en a plein, car vous êtes dans un gros atome. Vous les regardez et vous remarquez soudain qu'un des neutrons s'est transformé. Comme ça, spontanément. Il est devenu l'autre particule, un proton. Ce processus est une forme de radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta. Elle n'est pas sans conséquence, car lorsqu'elle a lieu, un électron est émis. Et cet électron, voyez-vous, il a posé de gros problèmes à nos ancêtres, parce qu'il n'était pas toujours émis à la même vitesse. Parfois il allait vite, parfois il allait lentement. Il n'avait pas toujours la même énergie. Pour Niels Bohr, au début du XXe siècle, cela signifiait que le fameux principe de conservation de l'énergie n'était pas si valable que ça. Qu'il était bon en moyenne, mais qu'il pouvait parfois être mis à mal, notamment par la radioactivité bêta. En revanche, pour Wolfgang Pauli, un autre scientifique extraordinaire, on ne pouvait pas remettre en cause la conservation de l'énergie. Pour lui, cette vitesse changeante des électrons émis par la radioactivité bêta était la preuve indirecte de l'existence d'une autre particule, une particule jusque-là inconnue. Cette particule, elle a été nommée neutrino. Elle a été détectée pour la première fois en 1956. C'est une des particules les plus étranges, les plus insaisissables et discrètes de notre univers. Et c'est pour nous parler de ce que nous en savons aujourd'hui que j'ai à mes côtés trois invités extraordinaires que voici.
Bonjour, je suis Kumiko Kotera, astrophysicienne au CNRS. Je suis directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris et autrice d'un livre qui est sorti il y a pile un an, qui s'intitule « L'univers violent » chez Albin Michel. Et j'ai cofondé et je co-dirige un projet international de détection de neutrinos de ultra haute énergie pour sonder les astres extrêmes de cet univers violent.
Bonjour à toutes et tous, je suis Antoine Kouchner, professeur à l'Université Paris-Cité. Je mène mes recherches au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, APC, dont j'ai été le directeur pendant à peu près 5 ans. Et mon domaine de recherche, c'est effectivement la détection de neutrinos. J'essaye de les détecter dans les abysses méditerranéens. J'en reparlerai, bien sûr. J'ai travaillé sur le détecteur pionnier qui s'appelle Antares. Et puis aujourd'hui, je travaille à l'exploitation et à la construction de son successeur, KM3Net. Et lorsque je ne fais pas de recherche, je m'intéresse aussi à développer les relations internationales de l'Université Paris-Cité.
Bonjour, Titiou Lecoq, je suis autrice et on va situer mon niveau sur le sujet. Au lycée, mon prof de physique-chimie nous avait expliqué que la matière était faite en grande partie de vide, ce qui avait généré chez moi une crise d'angoisse. J'avais fini à l'infirmerie quand même. Et donc avec le neutrino, c'est exactement l'inverse. J'ai découvert que là où je pensais qu'il n'y avait rien, il y avait des centaines de milliards de particules qui traversaient mon corps. Et je ne sais pas encore si ça va m'angoisser. On verra à la fin.
On va voir ça tout de suite. Titiou Lecoq, Antoine Kouchner et Kumiko Kotera, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio et nous allons parler des neutrinos, de leur détection et de leur lien avec ce qu'il y a de plus violent dans notre univers.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Antoine Kouchner, j'ai envie de commencer avec vous pour que vous nous décriviez un petit peu ce que sont ces neutrinos dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous les décrire, nous dire à quoi ils correspondent dans l'ordre des choses ?
Et pour rassurer tout le monde, je peux peut-être commencer par dire qu'ils sont inoffensifs, parce qu'en effet, ce sont des particules élémentaires.
Titiou Lecoq respire déjà.
Ouais, tant mieux. Simplement, effectivement, ils ont des propriétés assez singulières dans le cadre du modèle standard de la physique des particules. Et l'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, ils sont inoffensifs parce qu'ils interagissent très très peu avec la matière. Alors ils sont très nombreux, vous avez raison de citer ce chiffre assez faramineux de centaines de milliards qui nous traversent par seconde. Mais voilà, ils nous traversent et on ne s'en rend pas compte. Ça veut vraiment dire qu'ils sont extrêmement pénétrants et donc ils vont très peu interagir avec la matière. C'est une des caractéristiques principales de ces particules. Il y en a d'autres qu'on a découvert au fur et à mesure, et notamment le fait que, contrairement à ce qu'on pensait initialement dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, ils sont en fait massifs. Ils ont une masse, mais ils ont une masse qui est de l'ordre de 1 million de fois plus petite que les autres particules qu'on connaît. Et donc, ça leur confère effectivement un rôle un petit peu particulier. Et les raisons pour lesquelles cette masse est si petite, d'abord, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est rendu compte que ces neutrinos sont une masse. C'est lié à un phénomène qu'on appelle le phénomène des oscillations. En fait, il existe trois types de neutrinos et on s'est rendu compte qu'ils ont la faculté, par un mécanisme de physique quantique, de se transformer les uns en les autres. Et ça, ils ne peuvent le faire que s'ils ont une masse. Et c'est pour ça qu'on sait qu'ils en ont une. En revanche, on se demande s'ils acquièrent cette masse par le même mécanisme que les autres particules du modèle standard. C'est le fameux mécanisme lié au boson de Higgs. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Bah, il se pourrait que...
Titu se souvient absolument de ses cours de boson de Higgs.
Complètement. Boson. J'ai dîné avec lui hier.
Boson, je ne sais pas, mais Higgs peut-être. J'espère que vous en avez entendu parler. Mais sinon, Christophe va nous faire un cours, sans doute. En tout cas, voilà, il n'est pas sûr que les neutrinos acquièrent leur masse par ce phénomène-là. Et voilà, il n'est pas sûr, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement, mais il y a d'autres propositions. Elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont liées à des questions fondamentales en physique, qui sont par exemple, quelles sont les possibilités d'explication que la matière domine dans notre univers et qu'il n'y ait plus d'antimatière, ou qu'il n'y ait, voilà, mais en fait finalement que l'univers soit fait de matière, alors qu'au début de la théorie du Big Bang, il devait y avoir autant de matière que d'antimatière, et si ça avait perduré, tout ça se serait annihilé, en fait on serait dans le vide qui terrorise Titiou.
Le modèle standard, je vais peut-être en dire un petit mot pour Titiou et pour tout le monde, qui est qu'on a une sorte de vision de notre univers qui est basée sur les forces qui s'appliquent entre les objets. Il y a quatre forces qu'on connaît, disons, si on doit les classer d'une certaine manière. Il y en a une qui s'appelle la gravitation, qui est un petit peu différente des autres. Et il y en a trois qui s'appliquent aux particules, directement aux particules. Il y en a une qui s'appelle l'électromagnétisme. Il y en a une autre qui s'appelle... Et les deux autres, pardon, les deux qui restent, s'appliquent à l'intérieur des atomes eux-mêmes. Il y en a dans les noyaux des atomes. Il y a la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Et en gros, le modèle standard, c'est un modèle théorique qui nous permet de classer toutes les particules qu'on connaît à l'intérieur des interactions. Laquelle est soumise à la gravitation, par exemple, là, c'est facile, toutes. Toutes les particules sont soumises à la gravitation. Pour l'électromagnétisme, c'est un petit peu différent. Il faut avoir une charge électrique. Donc ça fait tout ce qui est électrique, plus la lumière. La lumière, c'est ce qui va permettre à une force de se propager, la force électromagnétique de se propager d'un endroit à un autre. C'est ça qu'on appelle un boson. Un boson, c'est une particule qui va prendre la force et l'amener et créer une force entre des autres particules. Les deux autres forces, nucléaire forte et nucléaire faible, sont dans le noyau des atomes. Et les neutrinos qui plaisent tant à Antoine et Kumiko sont soumises à une des forces nucléaires, la force nucléaire faible, mais pas l'autre. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles elles sont difficiles, ces neutrinos sont difficiles à capter. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, et vu qu'on a parlé de l'univers aussi dans l'introduction de cette émission, j'ai envie de vous demander, Kumiko, de nous décrire peut-être un lien que peuvent avoir ces neutrinos avec les phénomènes ultra-violents qui peuvent avoir lieu dans le reste de notre univers.
Oui, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène violent dans l'univers ? Je parle de l'univers violent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif pour nous tous lorsqu'on sort le soir, et qu'on regarde le ciel, on a l'impression que tout est immuable, tout est serein. Il n'en est rien. On a dans l'univers des objets qui vont exploser, pétiller, jaillir. Par exemple, on va avoir les étoiles en fin de vie, très massives, qui vont s'effondrer sur elles-mêmes et exploser en ce qu'on appelle des supernovae. Et ça va libérer une énergie colossale et faire un flash lumineux qu'on va pouvoir observer de très loin dans l'univers, mais ça va aussi libérer une bouffée de matière. Donc ça, c'est des supernovae. On a aussi d'autres phénomènes encore plus violents, des étoiles qu'on appelle des étoiles à neutrons, les plus petites étoiles de l'univers, qui vont se tourner entre elles pendant autour d'elles, enfin, entre elles pendant toute une vie, et ensuite entrer en fusion, en collision.
Lorsque deux étoiles à neutrons sont en orbite, en gros,
voilà,
se tournent autour l'une de l'autre.
Au bout d'un moment, elles se rejoignent, et ça crée, ça libère, pareil, donc elles se rentrent dedans, ça crée ce qu'on appelle une coalescence, une fusion, et ça va libérer, pareil, une énergie folle avec une explosion associée, des jets associés, et ces jets, on va pouvoir les observer des confins de l'univers. C'est ce qu'on appelle un sursaut gamma. Et l'univers est peuplé de ces phénomènes violents qu'on commence à observer depuis quelques décennies, on va dire 20 ans, de façon assez régulière. On n'avait pas les moyens instrumentaux avant de les repérer dans le ciel. Et là, on est en train donc de découvrir que l'univers est violent, vraiment.
En gros, on a des étoiles qui naissent et qui meurent, qui explosent, qui se rendent dedans, des noyaux d'étoiles qui se rendent dedans. Et à chaque fois, on a une sorte de feu d'artifice de particules qui sont envoyées aux quatre coins de l'univers. La plupart du temps, ces particules sont envoyées dans une certaine direction, ou est-ce que ça part dans toutes les directions ?
Il y a les deux cas. Ça peut partir dans toutes les directions. Les phénomènes les plus... les plus puissants
plus,
ou voilà, qui sont émis dans des jets très focalisés. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des sursauts gamma. Et donc là, pour faire le lien avec les neutrinos, comme je l'ai dit, ces phénomènes éjectent de la matière, en fait, accélèrent des particules en leur sein. Et une fois que ces particules sont accélérées, ça va produire, par certains mécanismes, des neutrinos, qui récupère une grande partie de l'énergie de ces jets, de ces explosions, et on va pouvoir voir sur Terre ces messagers-là, ces neutrinos, qui vont nous renseigner sur ce qui s'est passé physiquement.
Antoine Kouchner.
Oui, j'aimerais bien ajouter le fait que, puisqu'on parlait des propriétés des neutrinos, l'une qui est particulièrement intéressante pour nous, pour faire de l'astronomie, c'est que, comme son nom l'indique, neutrino, c'est-à-dire le petit neutre, il ne porte pas de charge électrique et donc il n'est pas défléchi par les champs magnétiques, ce qui veut dire qu'il voyage en ligne droite, si on peut le dire, dans un univers courbe. Mais enfin, disons que du coup, ça veut dire qu'il pointe vers la source qu'il a créée. Et ça permet de faire de l'astronomie, tandis que les particules chargées...
Comme les électrons, par exemple.
Les noyaux d'atomes, vont avoir des trajectoires courbées. Et donc, lorsqu'ils arrivent sur Terre, on ne sait pas quelle est la source qui les a émises. Donc ce neutrino est donc un messager pour faire de l'astrophysique ou de l'astronomie, et c'est la raison pour laquelle on essaye de les détecter. S'ajoute à ça donc ce très faible pouvoir d'interaction avec la matière, qui fait qu'on va pouvoir sonder des très grandes distances et donc observer un univers lointain, qu'on peut difficilement observer dans la gamme d'énergie qui nous intéresse, qui est donc la gamme d'énergie des phénomènes cataclysmiques que Kumiko vient de décrire. Disons qu'on ne peut pas les regarder avec les messagers plus classiques comme le photon, parce qu'aux énergies qui nous intéressent, les photons commencent à interagir avec la matière.
Les photons étant des particules de lumière.
Voilà, les particules de lumière, les bosons que vous avez évoqués tout à l'heure. Et donc, en fait, eux, ils ne nous permettent pas de regarder l'univers sur des grandes distances à haute énergie.
Parce qu'il y a de l'ombre.
Parce qu'ils sont absorbés, parce qu'ils ont, eux, interagi. Et donc, en réalité, il ne nous reste pas beaucoup de possibilités pour regarder l'univers lointain à des grandes énergies. C'est la possibilité qu'offrent les neutrinos, avec toutes les difficultés expérimentales qui s'en suivent naturellement, puisqu'ils sont si difficiles à capturer.
Titiou Lecoq, est-ce que ça vous rassure un petit peu déjà tout ça ?
Oui, ça me rassure, mais je trouve ça intéressant que vous parliez de regarder l'univers lointain. Alors que moi, ce qui m'a frappé en essayant de préparer l'émission, j'ai lu le livre de Kumiko, c'est notamment cette idée que vous travaillez sur de l'invisible et qu'en gros, on est une société qui est vraiment basée sur le visuel, que ce soit le texte, l'image, la vidéo, et on croit ce qu'on voit, etc. Et si j'ai bien compris, typiquement, vous travaillez sur des choses qui, au départ, sont plutôt des hypothèses mathématiques. On ne les constate pas d'abord, on les a déduits d'un ensemble de données, et après, maintenant, on construit les instruments pour réussir à les détecter.
En fait, je dirais que c'est un phénomène itératif, c'est-à-dire qu'on fait les deux. On émet des hypothèses, on construit des théories en travaillant avec des équations ou des ordinateurs en faisant des codes numériques. Et ensuite, on émet des hypothèses sur des observations qu'on va pouvoir faire. On va dire, par exemple, là, telle source devrait briller avec telle force, d'après notre théorie. Et ensuite, on va prendre un télescope, pointer dans le ciel, et voir si notre théorie est vérifiée, parce que la lumière apparaît comme on l'avait proposé.
Mais du coup, les neutrinos, comment on les conçoit?
Par la théorie,
avant de...
C'est ce que Christophe a expliqué, c'est-à-dire qu'on avait un gros défaut dans les théories qui existaient, c'est-à-dire que la conservation de l'énergie n'était pas assurée, et il fallait trouver quelque chose qui puisse expliquer ce manque d'énergie qui se passait lorsqu'on avait des interactions. Et d'ailleurs, c'était assez amusant parce que, justement, Paoli, lorsqu'il a...
Qui est celui qui a théorisé les,
oui,
voilà, les
quand neutrinos. Il a théorisé les neutrinos, a dit « J'ai fait quelque chose de terrible, j'ai postulé l'existence d'une particule dont on ne peut pas prouver l'existence. »
Oui, pour j'adore lui... cette phrase, je trouve oui. ça extraordinaire, mais ça a un côté un peu de folie.
C'est ça. Alors, pour lui, c'était impossible à l'époque, tellement le neutrino n'interagissait pas. Donc, pour ajouter une notion un peu de cette faible interaction que Antoine a déjà décrite, là, donc, chaque seconde où on est à l'émission, là, on a 100 000 milliards de neutrinos qui nous traversent, qui traversent notre corps, et il faudrait vivre 100 ans pour qu'une particule daigne interagir avec notre corps.
Alors, chez vous, vous pouvez fermer les yeux et essayer de voir si vous la sentez, cette particule, ce neutrino.
Ça serait quoi, interagir?
Interagir, ça veut dire faire un processus nucléaire avec une de nos cellules, mais ça va rien faire, hein.
Voilà. Il y a quelque chose de fascinant dans ce que vous notiez, Titiou Lecoq, et qui, moi, me fascine encore tous les jours, c'est cette idée que vous évoquiez, qu'il puisse y avoir une sorte d'idéal dans nos têtes de comment le monde devrait se comporter, comment la nature devrait se comporter. Et lorsqu'on a un phénomène, comme celui que Paoli avait noté à l'époque, qui ne correspond pas à sa vision des choses, à savoir que l'énergie devrait être conservée, plutôt que de se dire, bon, ben, il n'y a pas de conservation d'énergie, c'est dit, non, je veux y croire à ça, c'est trop beau, c'est trop puissant, c'est impossible que ce principe soit bafoué, et du coup, il a postuler l'existence de cette particule vraiment dont personne n'avait eu l'idée. À l'époque, on ne connaissait que deux particules, c'est tout, le proton et l'électron. Toutes les autres, personne n'en avait jamais entendu parler. Et il a postulé l'existence de cette particule juste pour que ce soit beau. Et ça, je trouve ça absolument splendide.
Ou pour sauvegarder un principe qui reste un principe et un postulat, mais qui permet quand même de faire des déductions. Et moi, j'ajouterais que on procède quand même c'est un dialogue entre la théorie et l'expérience. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête, parce qu'effectivement, du coup, il y a un postulat. Alors, on dit d'une particule qui ne sera jamais découverte, heureusement que les expérimentateurs sont là pour y travailler. Il a fallu plus de 25 ans pour découvrir les neutrinos. Mais entre-temps, ça a été théorisé, notamment par Enrico Fermi. Et cette théorie de l'existence des neutrinos, de la façon dont ils peuvent interagir, a ensuite permis de construire des détecteurs qui ont finalement donné la preuve de l'existence de ces neutrinos. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance sur un modèle, on le construit, on le teste, et lorsqu'on trouve des déviations ou des choses inattendues, on réarrange la théorie de manière à sauvegarder ce qu'on connaissait déjà et à avancer en connaissance.
Eh bien, nous allons essayer de comprendre comment on fait pour détecter ces neutrinos juste après avoir écouté La Bonne Étoile de M.
Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse.
Nous sommes toujours en direct et en compagnie de mes invités, l'autrice Titiou Lecoq, l'astrophysicienne Kumiko Kotera et le physicien Hautes Énergies Antoine Kouchner et le public du studio 621.
Big Bang, Christophe Galfard.
Alors, toutes ces particules qui traversent les vides immenses qui sont à l'intérieur du Titiou Lecoq, nous allons essayer
de... Waouh, la balle perdue.
Okay. Qui nous traverse tous.
Le neutrino perdu, j'ai envie de dire.
Voilà, exactement. Comment se fait-il que ces particules si insaisissables peuvent être quand même détectées? Je crois que la première détection a eu lieu en 1956 ou quelque chose comme ça. Ça a valu un prix Nobel. Il y a eu d'autres prix Nobel qui sont arrivés derrière. Mais vous, Antoine Kouchner, comment faites-vous pour détecter ces neutrinos?
Alors, pour les détecter, on a décidé de construire un télescope qui est à peu près aussi étrange que la particule qu'on souhaite voir. Donc ça s'appelle des télescopes à neutrinos et en fait, ce sont des télescopes sous-marins. Parce que lorsqu'un neutrino interagit, il veut bien le faire, hein, ça veut dire qu'il y a une faible probabilité de le faire puisqu'on dit tout le temps qu'il interagit très peu, mais de temps en temps, quand il y en a beaucoup, ça se produit et il crée une particule qui est chargée. Et si cette particule va très vite, plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu, on dit qu'elle est relativiste, ça va engendrer de la lumière dans le spectre visible, la lumière Cherenkov, une sorte de lumière bleue, qu'on peut voir dans un milieu transparent, comme peut l'être l'eau de mer. Et donc on a besoin d'un très grand milieu pour instrumenter un très gros volume de détection. Ça, c'est pour compenser la faiblesse d'interaction, donc la probabilité d'interaction du neutrino. Et puis, comme dans toutes les expériences de physique des particules, il va y avoir des bruits de fond, des choses qui peuvent s'apparenter au signal qu'on recherche. Donc, il faut se mettre en profondeur pour essayer de se protéger de ce qui pourrait venir de l'atmosphère au-dessus de nos têtes. Et c'est pourquoi les télescopes à neutrinos sont installés à plus de 2000 mètres de profondeur sous la mer. Et en fait, ils vont repérer avec des grappes de photodétecteurs très sensibles cette lumière très ténue qui signe le passage d'une particule chargée qui elle-même signe l'interaction de notre neutrino quelque part, soit dans le détecteur, soit proche du détecteur. Et donc, vous imaginez que construire un détecteur sous-marin à de telles profondeurs, ça n'est pas évident, surtout que l'échelle caractéristique de la taille de notre détecteur, c'est le kilomètre. C'est-à-dire qu'on va essayer d'instrumenter un kilomètre sur un kilomètre sur un kilomètre. Et puis, comme je le disais, pour se protéger du potentiel, ce qu'on appelle bruit de fond, donc du potentiel, des potentielles particules qui imitent notre signal, on va essayer dans un premier temps de regarder tout ce qui vient du dessous. C'est-à-dire qu'en fait, on va, avec ces télescopes à neutrinos, regarder le ciel qui est de l'autre côté de la Terre. Et la Terre va être utilisée pour arrêter les autres particules, mais elle n'arrête pas les neutrinos. Donc nos télescopes, ils sont particuliers parce qu'ils ne regardent pas le ciel au-dessus de nos têtes, mais ils regardent, ils sont sensibles au ciel qu'on a de l'autre côté.
Si je résume ce que votre expérience, vous observez donc, en gros, disons que si on veut prendre des neutrinos solaires, vous observez les neutrinos solaires la nuit, c'est-à-dire lorsque le soleil est de l'autre côté de la Terre, vous avez ces neutrinos qui traversent la Terre, qui arrivent sous vos pieds dans l'océan, quelques-uns qui interagissent et qui deviennent d'autres particules, qui filent dans l'eau et qui créent une sorte de sillage, peut-être, de lumière derrière eux. Je crois que c'est un peu la même chose que cette lumière bleue qu'on voit parfois dans les piscines atomiques.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et c'est cette lumière-là que vous essayez de détecter. Et je vais peut-être juste préciser une petite chose que vous avez dit avant que je n'entende des levées de boucliers partout. Vous avez dit qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière et vous avez rajouté « dans le milieu » à la fin. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière? Je me permets de vous la
dans
poser.
Le milieu,
dans
oui.
Dans le milieu.
C'est-à-dire que la lumière dans le milieu, elle se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par un indice qu'on appelle l'indice de réfraction. Et donc, en fait, effectivement, les particules relativistes, elles peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu. C'est cette idée de sillage, hein, c'est une bonne idée, c'est exactement ce qui se passe quand vous regardez derrière un bateau. En fait, si vous laissez tomber un petit caillou dans l'eau, vous allez avoir des cercles. C'est la propagation de l'onde à la surface. Et si vous faites ça en déplaçant votre main un petit peu plus vite que ne se propagent les ondes de surface, comme le bateau va plus vite que les ondes de surface, ben vous voyez un sillage qui est cohérent en fait. Et donc c'est le même phénomène qui se produit dans l'eau, enfin, c'est une bonne analogie. Et donc ce phénomène d'émission de lumière dite Cherenkov est très cohérent et en fait ça nous permet de reconstruire la trajectoire des particules avec une très bonne précision, ce qui est nécessaire hein, si on veut faire de l'astronomie parce qu'on veut quand même avoir une sorte de pouvoir de pointage. Le mot est mal approprié parce que notre détecteur il ne pointe pas, il est ouvert, il reconstruit la trajectoire de toutes les particules qu'il traverse. Mais bon, l'idée c'est quand même d'avoir une reconstruction de trajectoire précise pour ensuite essayer de regarder quelles sont les sources dans l'univers dont elles proviennent.
Et cette expérience-là, elle est dans la mer Méditerranée, vous l'avez dit tout à l'heure, et elle a permis déjà des détections, notamment l'année dernière, il me semble, une particulière.
Tout à fait, c'est vrai que donc, la détection qui a été observée, alors elle a été rapportée l'année dernière, en fait c'est un neutrino spectaculaire qui a été en réalité détecté en février 2021, mais c'était tellement spectaculaire que ça nous a pris du temps avant de pouvoir le dire au reste de la communauté. Nous avons détecté avec le télescope de nouvelle génération KM3Net, dans une première configuration partielle hein, de sa construction, seulement 21 lignes sur les plus de 200 qu'on voudrait construire. Nous avons détecté le neutrino le plus énergétique jamais observé auparavant, 30 fois plus énergétique que ne l'était le record précédent. Ça pose beaucoup de questions parce que notre détecteur était encore petit. Ça veut dire que, on dit dans notre domaine qu'il y a un peu une tension avec les résultats précédents, ce qui est super hein, d'une certaine façon parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais voilà, on a détecté ce neutrino. Dans notre jargon, on dit qu'il fait à peu près 100 PeV, c'est des pétaélectronvolts. C'est une énergie qui est colossale pour une particule élémentaire. C'est en gros à peu près l'énergie d'une balle de ping-pong que vous enverriez en l'air comme ça avec votre main. Sauf qu'il faut savoir que dans la balle de ping-pong, il y a des milliards et des milliards et des milliards de particules. Là, c'est une seule. Et donc, c'est un record battu qui ouvre tout un tas de questions auxquelles il va nous falloir répondre. Et l'expérience, dont Kumiko va certainement pas nous manquer de parler, devrait certainement pouvoir dire des choses dans le futur.
Kumiko Kotera.
Oui, c'était une aubaine, merci, hein, KM3Net, d'avoir découvert cette première particule. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on essaye de construire un détecteur pour qui vise cette gamme d'énergie-là de neutrinos.
C'est des ultra hautes énergies.
Des ultra hautes énergies, c'est 1 million de fois l'énergie qu'un neutrino peut, enfin d'un neutrino qui peut être produit par le Soleil, par exemple. Donc, on veut détecter ces neutrinos parce que ce sont les signatures, comme je disais, des événements les plus violents de l'univers. Et ça va nous permettre, enfin, c'est des messages qui nous viennent de ces astres extrêmes. Et donc, c'est pour détecter ces neutrinos de ultra haute énergie, qui sont rares, parce qu'intuitivement, plus on essaie de créer des choses énergétiques, plus c'est difficile. Donc l'univers nous en produit, mais assez peu. Il faut construire un détecteur gigantesque. Et pour faire ça, ce qu'on a mis au point, enfin ce qu'on est en train de mettre au point, c'est un détecteur radio. Donc au lieu de se mettre dans la mer, on va se mettre dans l'air. Et on va utiliser la terre, la roche, comme moyen d'interaction pour que le neutrino, au bout d'un moment, se fasse éclater la figure et se transforme en une autre particule qui, elle, va être détectable. L'idée, c'est qu'un neutrino est envoyé par un astre dans l'univers, va arriver sur Terre, se propager à l'intérieur de la roche, au bout d'un moment, se faire éclater la figure, interagir, produire une particule autre, secondaire, qui s'appelle un lepton tau. Et cette particule va sortir de la roche, sortir dans l'atmosphère, et là, créer une émission radio, un peu comme vous entendez là. Et je ne dis pas ça par hasard, parce que justement, l'idée du détecteur qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle GRAND, pour Giant Radio Array for Neutrino Detection, ce détecteur va fonctionner avec des milliers, des dizaines de milliers d'antennes radio qui sont quasiment comme les antennes que vous avez au-dessus de votre voiture, enfin sur le toit de votre voiture. C'est des détecteurs très simples. Et la raison pour laquelle on se tourne vers la radio, c'est parce que justement c'est simple. Pour pouvoir couvrir de très grandes surfaces et avoir une chance de détecter des particules aussi rares, il faut quelque chose de très simple et donc un bout d'antenne.
Je suis en train, écoutant parler d'antennes qui nous permettraient d'entendre le chant, disons, des cascades de particules qui apparaissent lorsqu'un neutrino interagit avec de la roche. Je vous imagine partir dans des déserts sur Terre avec des sacs d'antennes de toit de voiture dans votre sac. Alors, pour les planter un peu partout.
C'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, donc il faut pouvoir être justement pour ne pas être dérangé par les émissions du type France Inter lorsque nous on essaie de détecter nos neutrinos.
On va s'éteindre.
Voilà. Non, il faut aller dans des endroits les plus reculés dans le monde où il y a très peu d'émissions radio. Parce que justement, là où on va nous chercher les signatures radio de notre particule, c'est pile dans la gamme de la fréquence FM. Quoi.
Et vous allez où du coup ?
Donc on va, là aujourd'hui, on a 63 antennes plantées dans le désert de Gobi, en Chine, avec nos partenaires, nos collaborateurs internationaux, dont la Chine. Et on a détecté, donc cette année, on a annoncé pour la première fois la détection de premières particules qui ne sont pas des neutrinos, qui sont des rayons cosmiques, ce sont des noyaux atomiques, qui nous servent de calibration et de test pour montrer que ça fonctionne un peu de la même façon, ça fait aussi des émissions radio. Et l'idée, c'était de montrer que cette détection radio est possible. Et donc là, on vient de le valider. Et maintenant, on va construire un détecteur encore plus grand, d'échelle supérieure, en Argentine, sur une chaîne de montagnes dans les Andes.
Et non pas une chaîne de radio.
Voilà.
Pardon.
Et donc, dans la Pampa, en Argentine. Et ça va couvrir à 1000 mètres d'altitude, environ 70 km de long sur une chaîne des Andes.
Antoine Kouchner.
Oui, je voulais rebondir sur le terme rayon cosmique. Donc ce ne sont pas des rayons, ce sont donc des noyaux d'atomes. Et en fait, c'est une des motivations de l'astronomie neutrino, parce que les rayons cosmiques à très haute énergie bombardent la Terre, l'atmosphère, Et on ne sait pas quelle est leur origine, précisément parce qu'ils portent une charge électrique et que, comme je le disais précédemment, leur trajectoire est défléchie. Et donc, ils ont été détectés il y a plus d'un siècle. Et la source, les sources astrophysiques ou les phénomènes astrophysiques ou physiques qui les produisent, on les soupçonne, mais on n'en a pas la certitude. Et c'est précisément l'utilisation de messagers comme les neutrinos qui vont nous permettre de les trouver, parce que le mode de production des neutrinos est intrinsèquement lié à la production de ces rayons cosmiques. En fait, ces propres rayons cosmiques, ces noyaux, interagissent probablement localement près des sources, dans les sources astrophysiques, et engendrent les neutrinos. Donc ça veut dire que détecter une source de neutrinos, c'est résoudre un mystère de plus d'un siècle sur l'origine des rayons cosmiques qui nous bombardent avec des énergies macroscopiques et dont on ne sait pas grand-chose donc sur les mécanismes de production. Donc je voulais rebondir sur cet aspect-là.
Il y a une... Oui, Kumiko, que
non, je voulais dire aussi que justement, enfin, croiser toutes ces informations, c'est extrêmement important aujourd'hui. On est en train d'entrer donc dans une ère d'astronomie nouvelle. Jusqu'à il y a 20 ans, on regardait essentiellement le ciel, l'univers, avec la lumière. Et là, on est en train d'un coup de faire du multi-messager, ou moi j'aime bien dire multisensoriel. On observe l'univers pas que avec la lumière, mais aussi avec donc des rayons cosmiques qui sont des particules. Moi, je trouve que, enfin, voilà, j'assimile ça à du toucher. C'est comme si, voilà, à la vue, on rajoutait maintenant le toucher de l'univers. Ensuite, en 2015, pour la première fois, on a vu les ondes gravitationnelles qui s'apparentent au son de l'univers. Et là, avec les neutrinos, on est en train de voir la saveur. Donc, c'est ce que Antoine, ça, c'est relié à la masse des neutrinos. C'est une caractéristique qu'ont les neutrinos. Et donc, on est en train de goûter l'univers.
Je ne sais pas si je dirais ça de la même façon, mais en tout cas, je pense que c'est très juste de dire qu'on a un regard croisé sur l'astrophysique aujourd'hui, qu'il faut reprendre les informations de tous les messagers possibles. Et on ne travaille pas qu'avec les neutrinos. Comme ils se propagent, eux, dans l'univers à la vitesse de la lumière, on peut faire des coïncidences, on peut chercher des signaux dans nos télescopes à neutrinos, en même temps que d'autres observatoires qui regardent la lumière. Et donc, en fait, on est connecté avec le reste des instruments. On envoie des alertes aux autres observatoires. Les ondes gravitationnelles aussi se propagent à la vitesse de la lumière dans l'univers. Et donc, on peut regarder des coïncidences de signaux d'ondes gravitationnelles et de neutrinos. Donc, on travaille complètement en réseau. Et cette révolution d'astronomie multimessager, je pense que c'est tout à fait important de la mentionner.
Et après avoir écouté Quando d'Andrea Laszlo de Simone, nous donnerons la parole aux membres du public.
È colpa del respiro, fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. Colpa della bocca, stupida come me, e del tuo corpo che la tocca. Dell'istinto agile come me che corre sempre dritto al punto. È colpa dell'amore ruvido come me. Quando
dors come me, se non ti dico quel che penso. È colpa del rumore, pavido.
Nous sommes toujours avec mes invités, l'astrophysicienne Kumiko Kotera, le physicien à hautes énergies Antoine Kouchner et l'autrice Titu Lecoq, et il est temps d'écouter les questions du public.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Nous avons une première question de Jétro.
Merci de prendre ma question. Que nous ont appris les neutrinos sur notre univers ?
Antoine ou Kumiko, qui veut répondre ? Kumiko Kotera.
Alors, je dirais à la fois beaucoup de choses et beaucoup de... ça a posé beaucoup de questions. Ça continue à poser beaucoup de questions. Donc, d'une part, ce que les neutrinos nous apprennent, nous ont appris, c'est beaucoup de choses sur le Soleil, sur notre Soleil. Puisqu'on a détecté beaucoup de neutrinos solaires, on continue à en détecter et on comprend que le Soleil fait de la fusion nucléaire en son sein. Et que c'est comme ça que les étoiles fonctionnent. Donc ça nous apprend beaucoup de choses sur l'état d'étoiles assez standard. Après, à plus haute énergie, donc en utilisant des instruments comme ceux d'Antoine, soit dans la mer Méditerranée ou en Antarctique, avec le même genre de mécanisme, c'est un instrument qui s'appelle Ice Cube, on a détecté des neutrinos de très haute énergie qui posent plus de questions qu'elles n'y répondent. Et là, donc, on a vu par exemple que le centre de notre galaxie semble être illuminé en neutrinos. Beaucoup de neutrinos proviennent du cœur de notre galaxie. Et on ne sait pas très bien quelles sont les sources qui font ça. Et voilà, donc ça c'est une question.
C'est génial les mystères quand même. Voilà. Je trouve que c'est ce qui fait avancer tout.
Absolument. Donc en fait, ce qui nous manque aujourd'hui pour répondre à ces questions... et relier les sources violentes de neutrinos de très haute énergie, pas de ultra haute parce qu'on n'en a pas vu encore beaucoup, de très haute énergie et ce que nous on détecte, c'est d'avoir un pointage très précis. C'est ce dont Antoine parlait à un moment. Il faut qu'on puisse voir exactement d'où le neutrino qu'on a détecté sur Terre vient. Et là, ça va nous permettre de répondre mieux à ces questions qui sont ouvertes.
Nous avons une autre question de Titu Lecoq.
Oui, on a compris qu'il y avait des collaborations entre différents pays. Je demandais à quel point vous êtes dépendant ou sensible à la géopolitique, du coup. Et est-ce que, dans le contexte actuel, on sait un peu instable, est-ce que ça peut avoir des conséquences, vous, sur les recherches qui sont menées ?
Énorme.
Ok.
Énorme.
Antoine, moins catégorique.
Non, on travaille avec tout le monde. Je veux dire, on a des... Effectivement, nos instruments sont très gros et assez coûteux. Et donc, ils sont exploités par des collaborations internationales. Et en fait, voilà, on travaille, on fait de la physique, de l'astrophysique, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on continue de travailler. Alors, bien sûr, on écoute ce qui se passe dans le monde, mais sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus facile. En ce moment, effectivement, on a quelques difficultés avec les expériences du même type, notamment en Russie, où voilà, il est beaucoup plus difficile de continuer à travailler. Mais globalement, les interactions continuent entre physiciens. Et effectivement, bon, je pense que c'est pertinent de dire que nos instruments sont des collaborations internationales et que de toute façon, on n'aurait pas les moyens, ni humains, ni financiers, de les faire tout seul.
Kumiko, vous vouliez rajouter ?
Oui, effectivement. Alors moi, je dirige un projet international qui rassemble des collaborateurs chinois, américains et européens, argentins. Enfin, effectivement, c'est très compliqué en ce moment. Et pour aller dans le sens d'Antoine, ce que je trouve très beau, c'est que malgré ces contextes géopolitiques très complexes, au niveau humain, on arrive encore à se donner la main, à parler. Et c'est quelque chose qui est assez porteur d'espoir, je trouve, ce côté, la diplomatie scientifique ou la science fondamentale comme dernier rempart de la diplomatie, parce que le ciel est un terrain neutre et on peut encore se rassembler autour.
Nous avons maintenant une question de Virginie.
Je suis là. Bonjour à tous. Est-ce qu'on pourrait assimiler le neutrino au fond diffus cosmologique, ce reliquat sonore du Big Bang ?
Antoine Kouchner.
Alors, pas le neutrino, mais le fond diffus cosmologique, je pense que là, vous évoquez le rayonnement qui est partout dans l'univers et qui est le rayonnement micro-ondes. Donc ce sont des photons avec une faible énergie qui ont été détectés et qui sont d'ailleurs une des détections qui a permis de valider quelque part le modèle cosmologique et le Big Bang. Ça veut dire que ces photons, cette lumière, s'est découplée à un moment donné lorsque le plasma originel était en expansion dans l'univers. Le même phénomène peut se produire avec les neutrinos et c'est même extrêmement intéressant parce que le découplage du fond diffus cosmologique, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Les neutrinos, eux, ils se seraient découplés au bout d'une seconde. Donc vous imaginez bien les informations qu'on pourrait tirer à étudier le fond diffus cosmologique de neutrinos, c'est-à-dire le bain de neutrinos dans lequel nous sommes.
Ce qui veut dire qu'en gros, on ne peut pas, en utilisant de la lumière, remonter plus loin que 380 000 ans après le Big Bang, alors qu'avec les neutrinos d'Antoine et Kumiko, on peut remonter jusqu'à une seconde après le Big Bang.
Mais ils ont une énergie tellement faible que pour le moment, nous ne savons pas comment les détecter. C'est un défi technologique trop grand, mais on y travaille évidemment activement. Je ne doute pas qu'on y arrivera à un moment donné, mais je ne serai peut-être plus là pour le voir.
Alors normalement, c'est le moment du son mystère que je fais découvrir à mes invités, mais aujourd'hui nous avons quelque chose de spécial, car Emmanuel Chauveau, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des Deux Infinis de Bordeaux, nous a enregistré avant-hier une petite visite sonore des entrailles d'une montagne, une visite qui a évidemment un lien avec les neutrinos.
Ici au milieu des 13 km du tunnel du Fréjus, et c'est ici que se trouve le laboratoire souterrain de Modane du CNRS. Il y a un peu de trafic, je vais m'écarter de la route et j'entre maintenant dans un sas de sécurité du tunnel un peu moins brillant. Alors en fait, ce laboratoire il se trouve sous 1700 mètres de roche, et ça va permettre d'arrêter la plupart des rayonnements cosmiques. Et sans ce bruit parasite, on va pouvoir étudier des phénomènes très rares, tels que l'interaction des neutrinos dans nos détecteurs. Donc je vais entrer maintenant dans le sas d'entrée du laboratoire. Et en fait, la protection contre l'événement cosmique, qui est offerte par la roche, elle n'est pas suffisante pour les recherches, parce qu'il faut également se protéger des événements qui viennent de la roche elle-même, et notamment le radon. Et ce qu'on entend là, c'est une usine qui fabrique de l'air qui est purifié en radon. Et cet air, on va l'injecter autour des instruments de mesure afin qu'il soit protégé de cet autre bruit parasite qu'est le radon. Donc maintenant, on entre dans le hall principal du laboratoire. C'est une cavité qui fait 15 mètres de haut et 30 mètres de long. Et ce qu'on entend maintenant, c'est principalement la climatisation du laboratoire qui permet le bon fonctionnement des expériences de recherche. Et là, à ma droite, se trouve justement une expérience. C'est le détecteur SuperNemo sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années avec une centaine de chercheurs et chercheuses dans le monde. C'est un détecteur qui fait 10 mètres de long et 9 mètres de large et de hauteur. Donc je longe le détecteur et sous le plancher sur lequel je marche là, eh bien, il y a environ 7000 câbles qui permettent d'acheminer la haute tension au détecteur et également de transporter des signaux à l'électronique de lecture. Et là justement je m'approche de cette électronique. Donc je suis maintenant entouré des baies de 2 mètres de haut où il y a ces 7000 câbles qui convergent sur les cartes électroniques. On n'arrive quasiment plus à les voir d'ailleurs. Et ce qu'on entend en fait, c'est la ventilation des châssis qui permet de dissiper la chaleur. Et en ce moment même, on est en train d'enregistrer des données qu'on analyse au fur et à mesure. On a chaque seconde environ 7 interactions de particules dans le détecteur. Et on est à la recherche d'une réaction très rare en lien avec les neutrinos qui pourrait arriver une fois par an ou moins. Donc il faut beaucoup de patience.
Alors par rapport à ce qu'on vient d'entendre, Agathe avait une question.
Oui. Est-ce que les 100 000 milliards de neutrinos qui nous traversent proviennent forcément de l'univers lointain? Et est-ce qu'on peut en créer sur Terre?
Alors non, là effectivement il y a une confusion. Hein. Les neutrinos les plus nombreux qui arrivent sur Terre, en fait c'est les neutrinos solaires dont Kumiko a parlé. Et donc c'est la source la plus intense, la plus proche, donc on en est largement dominé par les neutrinos du Soleil. Et donc, ce n'est pas l'univers lointain. Ceux de l'univers lointain, ils ont un flux beaucoup, beaucoup plus faible. Mais ils sont à plus haute énergie. La deuxième partie de la question, elle est sur la production de neutrinos sur Terre. Bien évidemment, en fait, même la détection, la première détection des neutrinos, leur découverte en 1956, c'est parce qu'on s'est placé près de réacteurs nucléaires. Ils produisent énormément de neutrinos.
On arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. On aurait envie de traverser l'univers à dos de neutrinos pour aller voir ce qui se cache dans les endroits qui n'ont plus d'ombre grâce à eux. Donc c'est la fin de Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous Emmanuel Chauveau pour votre voyage sonore au pays des neutrinos. Merci à Titiou Lecoq. Vos livres La vie ressemble à ça et Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes sont publiés aux éditions de l'Iconoclaste. Merci à vous Kumiko Kotera. Votre dernier livre L'univers violent est publié chez Albin Michel, je le recommande à toutes et à tous. Et merci Antoine Kouchner, votre livre À la recherche des neutrinos, messagers de l'infiniment grand et de l'infiniment petit est paru aux éditions Duno. Et je vous en invite à écouter le podcast de votre laboratoire Regardez le ciel autrement, il est sur le site de France Culture. Merci aussi au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Nicolas Delmas, à la vidéo Arnaud Caillé et à la préparation et à la programmation Élodie Royer qui elle aussi a plein de neutrinos partout dans son corps. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une émission autour de l'espionnage spatial.